Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment-devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Tu peux me redire un truc ?
Eh bien, écoute, voilà, nous sommes lundi.
On est lundi.
Lundi, 14h30, et on commence un podcast de ta série. Parce que tu en as fait beaucoup, apparemment.
Exactement.
C'est quand j'ai compris que tu en avais fait autant, je me dis, ah oui, mais en fait, il sait très bien ce qu'il fait. Parce que c'est vrai que j'ai eu un petit doute hier après notre conversation.
Ouais.
Je me suis dit, mais quel intérêt, mon histoire, en fait. Après, je me dis, j'ai écouté le podcast, et puis je me suis dit, c'est lui qui sait. C'est lui, son histoire, enfin c'est ton histoire aussi à toi, ce que tu construis.
Mmh.
Et du coup, je me suis dit, s'il estime que ça a sa place au sein de tout son travail, ok.
Tu m'as fait confiance.
Ok, oui, tout à fait.
J'en suis honoré. Je te lis une petite intro.
Oui.
Puis tu me dis ce que t'en penses.
Ouais.
Pascal, bienvenue chez moi.
Bonjour.
Je suis content. Pascal, t'as 56 ans. Il y a 17 ans, tu achètes une petite chambre de bonne à Paris. Dans cette chambre, tu découvres une boîte, et dans cette boîte, tu découvres un document. Une sorte de manuel de survie pour les gays des années 60. Tu te dis qu'il a dû appartenir à un ancien locataire, et tu le ranges dans un placard. Mais ce document est historique. C'est 36 pages qui décrivent comment un homme qui aime un autre homme peut être arrêté, mis en prison ou harcelé en France. Par la police, la justice, ses amis, ses voisins. Ce document, c'est un manuel de survie, comme je l'ai appelé. Il est partagé sous le manteau entre gays pour mieux échapper à cette répression. Toi, Pascal, tu gardes ce manuel précieusement dans un placard pendant 17 ans. Et il y a quelques semaines, tu vois une de mes publications sur Instagram et tu décides de sortir ce manuel de son placard et de me l'envoyer. Alors tu vois, moi, Pascal, je suis un passeur d'histoire, un ouvreur de voix, un résonateur d'intime pour libérer, et direct, quand on a discuté, mon radar s'est allumé. Je sentais que c'était pas par hasard si tu m'avais envoyé ce document à moi. Et au fil de nos échanges, je comprends que le manuel n'était pas seul dans ce placard. C'est toute une partie intime de toi que tu as gardée secrète et qui impacte profondément ton chemin intime, amoureux et sexuel. Avec ce manuel, c'est aussi ce secret que tu sors du placard. Tout a commencé l'année dernière, une conversation... Tu peux pas te mettre à pleurer immédiatement. Enfin, si tu peux, excuse-moi. Ça t'émeut ?
Ouais.
Ouais ?
Oui, oui.
T'es à l'aise que je termine l'intro ?
Oui, oui, termine. Il faut pas... Mes larmes, il faut pas être intimidé par ça, ni... Ça sort comme ça sort. Hein.
Ouais,
c'est fou, hein.
Bien sûr.
Tu surfes dessus. Je t'autorise à surfer dessus.
Bien sûr. Non, excuse-moi, si je me suis mal exprimé, elles sont bienvenues. Mais c'est vrai que moi aussi, ça m'émeut beaucoup. Donc, je crois que ce que je voulais te dire, c'est si toi aussi, t'es ému, on va être ému ensemble. Mais t'as bien raison, ça a toute sa place et tu ne retiens rien, bien entendu. Mais je crois que moi-même, quand j'ai préparé cette intro, je me suis mis à pleurer et je me suis dit, oulala, comment je fais pour être disponible à cet échange et faire mon métier, et à la fois faire de la place à cette émotion, tu vois. Je sais absolument pas où j'en étais, donc je vais reprendre. Avec ce manuel, c'est aussi ce secret que tu sors du placard. Pascal, tout a commencé l'année dernière, une conversation sur Grindr, créé un premier déclic puissant pour toi. Tu m'as parlé d'une explosion dans ma tête. Ensemble, on va parler du manuel, de toi, Pascal, du placard, pour, j'espère, y faire entrer plein de lumière et d'oxygène. Ça te va, cette intro ?
C'est parfait. C'est très beau. C'est très beau, même. Hein. J'étais surpris, en fait, que tu fasses le lien. Parce que je ne voyais pas le lien, en fait, entre le document et mon histoire, en fait. Hein. Enfin, surtout aujourd'hui. Et du coup, tu as fait le lien et je me dis, ah, mais oui, c'est vrai. Mais oui, en fait, c'est exactement ça. Cette histoire de sortir du placard. Enfin, je me considérais pas sortir du placard, mais c'est une partie très 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 intime que je livre en fait un petit peu quand même. C'est pas facile, mais bon, voilà. Mm-hmm. Je vais essayer.
Mm-hmm. Est-ce que ça te va qu'on commence déjà par le manuel?
Ouais.
Avant, après de rebondir sur ton
histoire.
Oui,
bien sûr, bien sûr. Mais c'est le point de départ quand même, le manuel. Ouais, donc,
ouais moi j'adore ces... ces dominos, ces jeux de dominos.
Oui, ouais.
Et alors, tu te souviens quelle publication sur Instagram que je poste te donne l'envie, l'idée de m'envoyer le document?
En fait, ça s'est fait genre un jour, je tombe sur un de tes posts, sur un post. C'était sur les lavements. Et je trouvais ça génial. Je me dis, oh là là, mais si j'avais connu ça avant, parce que moi, j'ai tout trouvé tout seul, en fait. Et deux jours plus tard, tu publies sur l'histoire d'un oncle, de ta propre histoire, en fait. Hein, et puis, vous, est-ce que vous avez d'autres histoires personnelles à raconter? Et tout de suite, je pense à ce livret, en fait, à ce document. Mais tout de suite, hein, c'était vraiment... c'était de l'histoire. Hein, parce que ce livret, il me parlait aussi d'histoire de mes ex, qui ont eu des ex, qui ont connu les années 50, 60, 70. Et c'était exactement ce qu'il me racontait, en fait. Et donc voilà. Du coup, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment de le livrer, ce livret.
Ok. Pourquoi moi?
Mais je pense que tu étais là, parce que tu étais là, simplement.
Parce que j'ai fait l'invitation, peut-être.
Et oui, tout à fait.
J'ai fait l'appel.
Oui, voilà, ouais. Mais déjà, je trouvais. Je venais juste de découvrir, hein, j'avais juste lu quelques publications, mais je trouvais ça juste génial. Et puis en plus, je sais que tu te plaignais de propos homophobes, et voilà, moi je trouve ça tellement. Pitoyable que j'avais envie aussi de t'aider, en fait, quelque part, tu vois, te dire, eh ben non, mais c'est bien ce que tu fais. Mm-hmm. Et du coup, ce document, bah, je te le donnais pour toi, en fait, aussi, pour construire ce que tu fais. Donc, mm-hmm. Donc voilà.
C'est chouette. Tu l'avais sorti, tu l'avais envoyé, ce document, avant à d'autres
pendant 17 ans? Non. Je ne l'ai montré à personne. J'ai juste deux amis à qui j'en ai parlé au tout début, que j'ai eu le studio.
Où était la boîte et dans laquelle il y avait ce document?
Alors, dans cette chambre de bonne, elle semblait être inhabitée depuis les années 70, en fait. Il y avait un fouillis, il y avait des bibelots qui traînaient, il y avait des petites étagères, il y avait une petite armoire dans laquelle il y avait des vêtements. Et en bas de cette armoire, il y avait cette boîte. Non, c'était pas une boîte, mais si, il y avait une boîte genre à l'ancienne de chemise. On mettait les chemises dans les boîtes avant. Mmh. Et puis par-dessus, il y avait des papiers, des lettres, des brouillons de lettres, et puis ce manuscrit. Tout de suite, j'ai dit, ah, mais c'est incroyable. Alors moi, je l'ai pris pour... c'était le propriétaire, en fait, ça appartenait au propriétaire.
Au précédent.
Oui.
Tu achètes dans les début des années 2000.
2000, c'était il y a 17 ans, donc il y a 2000...
Début des années 2000.
Oui, voilà, à peu près.
Ouais. Et donc, toi, tu penses que... Enfin, les vêtements étaient tels quels, étaient restés 30 ans. Enfin, c'était impressionnant.
Ça m'a semblé, alors, je ne sais pas si c'est ça, parce que depuis, j'ai un peu regardé un peu mon acte d'achat, et en fait, ce monsieur, au moment de sa mort, c'est un monsieur qui devait avoir à peu près 80, 90 ans quand il est mort, il habitait juste à côté. Et du coup, je me suis dit, il a acheté cette chambre de bonne en 77. Mmh. Et du coup, je me dis, bon, peut-être qu'il s'en est servi comme un grenier ou une pièce d'entrepôt, parce qu'en fait, il a payé ça une misère, en fait. Hein, donc,
à l'époque, ouais.
À l'époque, mais c'est un truc...
Tu te dis, c'est incroyable ce que j'ai trouvé. Donc, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais moi, tu as pris en photo ce document papier.
Oui, oui.
Tu l'as à la fois envoyé à une association d'archives. Donc
voilà.
C'est très chouette. Et tu me l'as envoyé aussi.
Oui.
Et moi, je le publie sur le site du podcast.
Très bien.
Comme ça, si les auditeurs veulent
aller. Oui, mais c'est fait pour être lu, en fait.
Ouais.
Hein.
Et du coup, c'est dans le menu détail comment la répression se faisait, peut se faire.
Voilà.
Pour que si tu en es la victime, tu puisses réagir. Et aussi, si tu peux l'éviter, tu l'évites. Quoi.
Voilà, pour éviter, en tout cas, de savoir ce que l'on fait est répréhensible et de quelle manière et comment l'éviter. En tout cas, de savoir que ce que l'on fait, ça peut être répréhensible.
Ouais.
Voilà. Et là, quand on le relit, quand on lit, parce que là, je l'ai lu avant de venir, Mais j'avais pas, j'avais même pas, il y a 17 ans, vu que c'était rien que de, d'écrire des lettres, ça pouvait être pris pour preuve d'être gay, en fait. Mm-hmm. Et donc, c'était répréhensible.
C'est-à-dire d'écrire ça. Une lettre à un homme
voilà.
qui sous-entend
ouais, ouais.
une possible affection ou une sexualité.
Voilà, voilà. S'il y avait des preuves d'homosexualité, c'était condamné.
Ouais.
Donc, il y avait une répression, mais qui était énorme, énorme.
Le manuel, j'ai pris ça en... Enfin, j'ai vraiment retenu ça. Le manuel, à un moment donné, mentionne l'histoire de la femme d'un homme qui... Ils sont en instance de divorce.
Oui.
Qui se rend compte que son mari a des relations avec d'autres hommes, qui découvre une lettre.
Ouais.
Et en fait, par effet
voilà.
domino,
voilà.
qui arrive à... Enfin, qui arrive, qui fait arrêter
voilà.
20 oui. personnes, parce bah que ouais. du coup, la police perquisitionne.
Exactement.
C'est-à-dire 20 personnes qui se citaient les unes les autres.
Voilà. Par des perquisitions, en fait, tout simplement. Hein. Il y a un film, il n'y a pas longtemps, qui est sorti... j'ai pas retenu le nom du titre, mais il n'y a pas longtemps, avec Vincent Lacoste. Et c'est ça, à la fin du film. En fait, la police perquisitionne l'appartement du couple et le bureau du mari pour trouver des preuves.
Mmh.
Des preuves qu'il est gay, en fait.
Tu comprends pourquoi, pendant 17 ans, tu n'en fais rien de ce document, mais pour autant, tu le gardes
Je le garde parce que je me dis, un jour, c'est comme un... pour moi, c'est un morceau d'histoire. C'est comme si j'avais gratté dans le sol en Égypte et trouvé un truc, enfin, vous voyez, tu vois. Et je me dis, un jour, je vais le transmettre. Mais j'attendais le moment où il y ait... un lieu, en fait, pour le confier, en fait, et qu'il soit pris en compte. Et je l'avais un peu oublié, c'est vrai. Et c'est toi, en fait, qui me l'a... D'un seul coup, j'y ai repensé. Et je me suis dit, voilà, c'est peut-être le moment.
Et t'as décidé que ça l'était.
Ouais.
Est-ce que t'as d'autres choses à dire sur le manuel, où on passe à ton histoire à toi? Des choses que tu retiens ou des choses qui ont résonné pour toi à
ça. Ça a résonné parce que dans le sens où ça confirmait ce que mon ex m'avait raconté, qui lui-même avait un ex qui avait... Enfin, j'ai un ex qui a 9 ans plus que moi, et lui a un ex qui a 15 ans plus que lui. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est de la génération 50, 60, 70, et c'est quelqu'un qui avait des bars de nuit dans Paris.
Ah.
Et qui a connu exactement ça, la répression, les garçons qui dansent ensemble, c'était, il y avait des descentes de flics,
je me permets de t'interrompre, le manuel m'apprend que dans les années 60, par décret, la danse entre deux hommes est interdite dans plusieurs départements, dont celui de Paris, du Rhône, etc.
Et voilà,
la danse entre deux hommes.
Oui, mais voilà, c'est même pas un acte sexuel, en fait. Hein. Non, c'est juste danser ensemble. Mais c'est fou, quand même, de penser à ça. C'est ce que j'ai entendu. Donc ça correspondait vraiment à ce que j'avais entendu, ce que je lisais. Et en plus, et moi, enfant des années 80, alors on n'est plus dans...
Enfant des années 80, je suis né...
Non, mais je suis un ado des années 80.
Je suis né en 86.
Oui, oui. Non, mais je suis un ado des années 80, donc si tu veux, mon éveil sexuel est déjà là, commence à être là, et je commence à comprendre. Et puis mes débuts dans la vie sexuelle, forcément, moi j'ai des boyfriends qui sont plus âgés que moi, donc j'entends des choses... Et je sais que, en fait, finalement, la chasse aux gays est devenue la chasse à l'attentat à la pudeur, en fait, finalement. C'est transformé en attentat à la pudeur.
Mm-hmm.
On dit plus gay, mais on dit attentat à la pudeur.
C'est ça. C'est qu'au final, d'ailleurs, le juriste, parce que j'essaie d'avoir un historien sur le podcast qui peut un peu nous raconter les tenants et les aboutissants. Parce que ce que je trouve puissant dans ce manuel, c'est qu'il décrit un passé qui est encore actif aujourd'hui,
mais
qui
oui.
explique beaucoup.
Mais oui.
Bon, ça, c'est un autre sujet, mais ce que je voulais te dire, c'est ce n'est pas un délit. L'homosexualité, à l'époque, n'est pas un délit, mais la police et la justice utilisent l'outrage public à la pudeur, si je dis bien...
Attentat à la pudeur.
Attentat. Mais il y a outrage hein, dans le manuel.
Ah, dans le manuel, c'est-à-dire peut-être, oui.
Et par exemple, aller et venir dans des toilettes publiques
est une preuve.
Est une preuve pour t'arrêter
voilà.
à ce fameux outrage à la pudeur. Donc tu es habillé, hein, tu fais des allers-retours pour aller aux toilettes. Et la police peut considérer ça.
Exactement.
Donc l'attentat à la pudeur devient un truc un peu extensible que tu utilises.
Et il a été perduré, cet attentat à la pudeur, dans les années 80, même 90. Parce que moi, j'ai connu des potes qui se sont fait arrêter sur des lieux publics. Mm-hmm. Si Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, etc. Où il y avait des flics qui étaient là pour... Des flics en civil qui étaient là pour arrêter le flagrant délit d'attentat à la pudeur. Et que même les employeurs, la police ou enfin, je ne sais pas qui dans le système, prévenaient les employeurs de l'attentat à la pudeur et de la nature de l'attentat à la pudeur, même dans les années 90. Ce qui était hier, hein, quand même. Hein.
Et moi, là où je vois que c'est aujourd'hui, c'est par exemple dans un documentaire de Mediapart sur les guet-apens homophobes.
Oui.
En 2022, t'as un guet-apens homophobe tous les trois jours, c'est-à-dire un homosexuel qui est manipulé grâce aux apps, notamment, par une personne qui va l'attirer quelque part et le passer à tabac, le violenter ou autre. Ça, c'est donc les chiffres 2022, une double enquête de T'es-tu et de Mediapart.
Ouais.
Et une des choses que les enquêtes montrent, c'est que l'accueil par la police est très compliqué. C'est-à-dire que les victimes ont du mal à aller à la police parce qu'elles ont cette crainte d'une police homophobe. Et c'est le cas, il y a eu plusieurs témoignages à Paris, notamment dans le commissariat du Marais, où t'es quand même, dis quand même que... Où en fait, il y a pas mal de victimes qui ont été mal accueillies et un harcèlement de la police qui existe encore aujourd'hui dans des lieux de cruising à Paris. Des policiers qui viennent emmerder, par exemple aux Tuileries, qui est un espace de rencontre et de cruising connu, tu vois. Aujourd'hui, hein, 2024. C'est quoi le pont que tu fais et où tu as envie de faire entre le manuel et ton histoire ? Moi, je t'ai proposé... Alors, au début, j'imaginais que ce document était dans un tiroir. Et après, je me suis dit, mais le tiroir, c'est peut-être un placard. Et j'ai décidé d'aller dans la métaphore du placard.
Eh ben oui.
Secret. Et tu avais l'air OK de faire ce pont. Est-ce que tu en fais un autre ? Est-ce qu'il y a... Tu vois une coïncidence que tu te retrouves à me raconter ton histoire ?
Alors, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence, finalement, parce que... J'ai l'impression d'être à un moment de ma vie un peu... C'est un peu particulier, en fait. J'ai l'impression... j'ai l'impression d'arriver... Bon, voilà, j'ai 56 ans. J'ai l'impression de faire un bilan. En fait, je travaille un peu moins. Je repense à ce que j'ai vécu. Par exemple, tout simplement, par exemple, je fais parler ma mère sur mon enfance. J'ai l'impression de recoller les morceaux, ou en tout cas de comprendre ce qui s'est passé en rajoutant des morceaux que je n'avais pas pensé à interroger ou même que je ne savais même pas que ça existait, ces morceaux. Et puis, je fais aussi mon cheminement, en fait, parce qu'il y a le cheminement professionnel aussi, et pourquoi j'ai eu ce cheminement-là, et mon cheminement amoureux, sexuel, tout ça est lié, en fait. Il y a une espèce de... J'y vois une traversée, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, je pense que je suis arrivé à un moment de ma vie où j'ai peut-être besoin de comprendre ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, et finalement, ce que je suis aujourd'hui, en fait, finalement. Comment ce que je suis aujourd'hui, mes aspirations d'aujourd'hui, les aspirations. Parce que je suis en questionnement, finalement, aujourd'hui. Je sais pas. J'ai l'impression d'être à une porte et de je sais pas s'il faut que je la traverse ou pas.
Ce serait quoi cette porte ? En fait, est-ce que tu serais à l'aise de dire ce secret de façon frontale ? Est-ce que tu veux qu'on tourne autour ?
Je pense que frontalement, ça c'est un peu violent peut-être pour moi et peut-être pour les auditeurs aussi, je pense. Est-ce qu'il faut que je revienne un peu en arrière, le petit garçon que j'ai été. Moi, j'étais un petit garçon très très. Je m'associe. Enfin, je m'identifie souvent à une petite fille quand même. Mm-hmm. J'avais des envies de petite fille. J'avais voilà, j'avais des poupées. J'avais envie d'une dinette. Voilà, j'étais très. Voilà, ça me parlait tout ça. mettre les chaussures de ma mère. Enfin, bon, des trucs comme ça qui. Voilà, par rapport à mes frères, j'ai deux frères qui étaient des bourrins, quoi, à côté de moi. Hein. Et puis, comment le harcèlement a commencé, en fait, à l'école. On a commencé à... Voilà, les mots habituels. Mais c'est arrivé petit à petit, finalement, progressivement.
Et... Le harcèlement, parce que tu étais trop efféminé.
Oui, oui, ouais. Ouais, parce que avant que je mette le mot gay dans ma tête, le harcèlement était déjà là depuis un moment.
Mais sur ton aspect efféminé, hein, pas sur une identité sexuelle, puisqu'à l'époque, tu
bah, j'en avais pas.
Oui, c'est ça, tu n'avais pas, tu étais un enfant.
Bah oui, j'étais un enfant, hein, même si, avec le recul, j'ai vrai que les garçons, j'avais un regard sur les garçons qui ils m'intimidaient beaucoup, les garçons. Mm-hmm. Autant les filles, c'était des copines, vraiment, hein, d'égal à égal. Mais les garçons, voilà, c'était un monde un peu... j'avais envie, mais voilà, c'était... Ils m'intimidaient beaucoup, les garçons. Mm-hmm. Et puis, je pense que j'avais un aspect très féminin, en fait. On me prenait souvent pour... On me disait mademoiselle, hein. Mais on me prenait pour une petite fille, en fait. Hein.
Même à tes premières années adultes, tu me disais à 20 ans, j'avais les cheveux longs.
Ah oui, oui, oui.
On me prenait
oui.
pour...
Ah oui, on me disait mademoiselle, c'était très courant. Hein. Mm-hmm. Très courant.
C'est quelque chose que tu cherchais, tu crois?
Non, en fait. Pas du tout. C'était normal pour moi. Et ça ne me dérangeait pas qu'on me dise mademoiselle.
Joli lapsus.
Ça me dérangeait pas.
Ouais.
Je pense que j'aimais bien. Ça me...
T'as entendu ton lapsus ou pas?
Non, je l'ai pas entendu.
J'ai cru entendre des gens... Au lieu de déranger, t'as dit des genres.
Ah bon?
Ouais. Je trouve que c'est...
Ah oui, c'est drôle.
Oh, peut-être c'est moi qui ai inventé. Hein. En plus, tout ça a été enregistré.
Tu vas pouvoir vérifier.
Ouais, ça te dérangeait pas?
Non, pas du tout. En plus, moi, j'étais ado, c'est des années 80. Moi, j'adorais Boy George. Donc, Boy George, ça me semblait tellement loin, vraiment dans l'expression de la féminité, que moi, c'était rien du tout à côté. Hein. Vraiment, c'était peanuts.
C'est un chanteur pop anglais?
Oui, voilà, ouais, qui se maquillait et tout. Mais il a été loin quand même dans le côté un peu travesti, tout ça. Mm-hmm. Puis moi, j'aimais bien Pete Burns aussi, qui a été encore lui plus loin après dans... La transformation physique, il a été très loin après. Hein.
Tu grandis où? C'est où cette scène, cette enfance?
Eh bien, mon enfance, elle était... j'ai un père militaire. Région parisienne, Reims, l'Afrique. J'ai 2 ans au Tchad. Mon père, il décède quand j'ai 10 ans. Donc, retour dans la région de mes parents, donc en Bretagne. Jusqu'à mes 19 ans, où à 19 ans, je vais à Paris. Voilà. Et depuis, je n'ai pas quitté Paris. Mmh. Et
qu'est-ce qui se passe alors pour ce jeune adulte aux cheveux longs, qu'on appelle mademoiselle et que ça ne dérange pas? Tu t'en es éloigné ou...
ce garçon-là.
Si tu continues ton histoire.
Oui, cette histoire-là, pardon. Je suis un jeune adulte. Alors, donc, je suis un jeune adulte quand même très mal à l'aise, très. Je me sens très renfermé sur moi-même. Le harcèlement scolaire au collège m'a énormément affecté, m'a énormément replié sur moi-même. J'ai un rapport aux autres très compliqué, un rapport à mon corps très compliqué. Je suis à la limite de l'autisme, tellement je suis muet. Je suis fermé aux autres totalement, mais vraiment, c'est d'une. Je me rends compte aujourd'hui à quel point c'était. Et à partir du moment où je quitte. J'ai pas quitté la Bretagne, puisque j'y retourne très régulièrement. Mais à partir du moment où je sors de la province, où je sors de mon cercle familial, y a un petit peu plus de confiance en moi qui commence à arriver. Et puis je me rends compte que d'être féminin, c'est un peu compliqué. Il y a une certaine, pas violence du monde, mais je sens que si je veux m'intégrer, il faut que je les fasse. Et en plus, on est vraiment dans les fins 80, il y a un côté, les garçons un peu bad boy, c'est le jean, le débardeur. Enfin, on est dans un truc masculin quand même. Et je me rends compte que si je veux séduire, en fait, si je veux être, il faut que je colle au code, finalement. Et peut-être que j'ai fait l'erreur que font beaucoup de gays, c'est que j'ai voulu ressembler à ce que j'ai envie d'aimer. Et du coup, je me suis éloigné de ce garçon féminin. Alors même si je ne suis pas d'une grande virilité, mais en tout cas, j'ai effacé les cheveux longs. Ils sont devenus de plus en plus courts, très courts. Je suis allé jusqu'à porter des treillis. Quelque chose de très militaire. À un moment, ça ne se faisait pas trop, mais voilà, début 90... il y a le mouvement grunge début 90 aussi où là tous les vêtements étaient déchirés, tout était en lambeaux. Donc du coup je me suis totalement éloigné de ce côté féminin en fait, pour être plus parmi les gens en fait, finalement, pour essayer de, parce que je voulais compenser mon manque de mon incapacité à dialoguer. C'était très très dur pour moi. C'est pour moi, j'ai l'impression que c'était un langage que je n'arrivais pas à comprendre. Dialoguer, c'était une angoisse terrible pour moi. Mais ça l'est encore, si j'ai mis autant de temps à t'appeler finalement, parce que j'ai mis un peu, tu m'as demandé à ce qu'on s'appelle, etc. Mais j'ai mis du temps. Mais parce que j'étais angoissé à appeler quelqu'un que je ne connais pas et qui allait me demander de parler, en plus à un micro, etc. Mais je ne voyais pas du tout le truc pour moi. Je me dis non, ce n'est pas possible. Ce garçon... Donc voilà.
J'ai envie qu'on fasse un saut dans le temps.
Oui.
Et qu'on arrive à aujourd'hui.
Aujourd'hui, oui.
C'est quoi le... Il y a un an, il y a cette conversation Grindr qui fait une explosion dans ma tête, m'as-tu dit.
Oui.
Est-ce que tu peux la raconter et comme ça on va pouvoir comprendre et après on parlera du chemin et tout, mais il s'est passé quoi il y a un an ?
Il y a un an, en fait, moi déjà, j'ai plus de relations sexuelles depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai dit stop, j'avais plus envie. Et il y a un an, j'étais quand même sur Grindr. Quand même, j'aime bien regarder ce qui se passe, même si j'y participe pas, mais je regarde. Et souvent, quand on me contacte, je réponds même pas. Enfin, je fais la sourde oreille. Enfin bon. Et puis là, il y a un mec qui me. Je revenais du Brésil. J'ai passé 2 semaines à Rio. J'étais en pleine forme. J'étais bien. Et il y a un mec qui m'aborde sur Grindr. Bon, je réponds là cette fois-ci en me disant bon. Et puis très rapidement, il met le doigt sur des choses qui moi me plaisent en fait. Ce côté un peu féminin. Il me demande si je porte de la lingerie. Et d'un seul coup, il me dit des choses que j'ai envie d'entendre. J'ai envie d'un homme comme ça avec moi. Et du coup, je vais là où il a envie de m'emmener. Mais en même temps, c'est là où j'ai envie d'aller finalement. Et je vais même plus loin que lui parce que d'un seul coup, je commence à m'imaginer. J'ai même, à ce moment-là, je lui ai parlé de que j'avais un trouble du genre. C'est la première fois de ma vie, c'était pas la première fois de ma vie, mais parce que 2 ans avant, je m'étais dit dans l'idée de prendre des hormones féminines, peut-être que, tiens, ça rééquilibrerait les choses, je me sentirais peut-être mieux. Et sauf que là, cette conversation avec cet homme, j'étais à la limite de me dire, mais je suis une femme, en fait. Mm-hmm. Je suis pas un homme. Et ça a été dans ma tête, mais un truc, c'était une explosion. Peut-être trop même, parce que je pense que ça l'a fait fuir. Il habitait à Londres, et ce qui fait que la proximité... On n'a pas pu se voir rapidement, ce qu'on aurait dû se voir très rapidement, en fait. Mm-hmm. Et... Mais en fait, en tout cas, il a mis le doigt... Il a mis le doigt pile poil sur... sur ce qui était latent depuis plusieurs années.
Et sur lequel, toi, tu ne mettais pas de mots, c'est ça que je comprends ?
Je ne mettais pas de mots, je... Voilà, je me voyais pas, je me projetais pas dans ce... dans ce mouvement-là, féminin.
Lui, en t'exprimant son désir oui. à cet endroit, oui. à cette part féminine en oui. toi, l'a validé quelque part, c'est ça ?
Ah mais oui, complètement. Ben oui.
T'avais besoin de regard, du regard de l'autre.
Mais oui, ouais. voilà, voilà. Ouais. Je pense que c'était un truc que j'avais un peu de mal à me voir en, je veux dire, en femme. C'est oui, en fait, oui, c'est de me voir en femme, enfin de me considérer en étant une femme. Mm-hmm. C'était déjà là depuis un moment, hein, mais là qu'un homme me dise clairement qu'il voulait que je sois sa femme. Mais c'est comme si toute ma vie, c'est ce que j'avais envie d'entendre, en fait. Mm-hmm. C'est... Mais vraiment, c'était ça que je voulais. Et alors, il y avait c'était surtout dans l'aspect sexuel, et finalement, c'était vraiment un chemin que j'avais envie d'embrasser mm-hmm. avec lui, en fait.
Lui est en visite à Paris ?
Non.
Lui te trouve sur Grindr à partir de Londres ?
À partir de Londres, en sachant qu'il vient de temps en temps à Paris.
Ok.
Et en fait, il n'est pas libre. Voilà. Et il voulait trouver quelqu'un, il voulait trouver un amant exclusif sur Paris, quand il vient à Paris. Voilà.
Ok.
Et c'était précis, sa demande était précise.
Ça veut dire quoi ? En fait, il n'est pas libre, je ne comprends pas.
Il a un mari à Londres.
Ok.
Voilà.
Ok. Et on n'a plus son numéro.
Alors, on échangeait par WhatsApp, et puis bah, ça a duré 3 semaines, à peu près. Et puis, mais moi, je pense que je me suis peut-être un peu mis le curseur un peu trop haut. J'étais peut-être trop en demande. Trop en demande, je pense. Mm. Parce qu'effectivement, j'étais impatient, en fait, de vivre quelque chose avec lui. En fait, j'avais l'impression de... Au moins, il fallait que je vive une nuit avec lui pour vivre ce qu'il me proposait, en fait, et ce que j'avais envie. Mmh. Et c'était vraiment... il fallait que je le vive en vrai. Mmh. Et pas juste être dans mon imagination, dans laquelle j'ai une imagination très puissante qui voilà, je suis capable de voilà les fantasmes, je sais ce que c'est. Mm-hmm. Mais là, pour le coup, je pense que c'était le moment où j'avais envie de passer à la réalité.
Comment s'est passée la rupture de communication ?
Eh bien, en fait, il s'est rien passé. C'est d'un seul coup.
Lui n'a pas répondu.
Il n'a pas répondu à un message. Et je me suis dit bon ben, je vais attendre qu'il réponde. Pour voir sa réaction, en fait, je l'ai testé, en fait, et il n'a jamais répondu.
Ok.
Et puis, au bout de 2 semaines, bah, j'ai tout effacé.
Tu n'as plus son numéro ?
J'ai plus son numéro, j'ai plus rien. Alors, tu vas dire que le hasard est vraiment...
Mmh.
Il est juste incroyable, le hasard.
Mmh.
Cette nuit, j'ai un mec qui me fait un taps sur Grindr.
Ouais, genre un coup.
Un like.
Ouais, un like, ouais.
C'est lui.
Non, cette nuit ?
Cette nuit. Mais quand j'ai vu ça ce matin, je me dis, mais non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Alors, je ne sais pas. Parce qu'en fait, j'ai changé mon pseudo. Alors, je ne sais plus si ce sont les mêmes photos ou pas. Ben, je ne sais pas si c'est que c'est moi. Pour l'instant, j'attends, j'attends que...
Ah là là là.
Et
là.
Je me dis, mais non, mais c'est juste incroyable.
Tu as des photos de ton visage sur ton...
Non, non.
Donc, il ne sait pas que c'est toi. S'il n'y a pas de photo de visage, il n'y a aucun moyen.
Ben, si, parce que je pense que les photos qui sont sur mon profil, c'est des photos que j'ai faites pour lui.
Mmh.
Donc, je me dis, c'est pas possible, il les a. Ou alors, je me trompe, chronologiquement, je me trompe.
Ah là là.
Mais je suis sûr que ces photos-là, elles étaient faites pour lui. En tout cas, il y en a deux, je suis quasiment sûr.
C'est la fin de notre première partie.
Ok.
On va continuer ça dans la deuxième partie.
Ok.
Je me dis, quand est-ce que je coupe ? Eh bien, c'est maintenant. Okay. Si ça te va.
Ok.
Dans la suite, j'ai envie que, bien entendu, on discute de est-ce qu'on recontacte ? Et est-ce que tu veux le nommer, cette personne ? Non, mais pas forcément de dévoiler son identité, mais le londonien. Voilà, je vais moi le nommer, le londonien.
Le londonien qui est brésilien, en fait.
Le brésiliano-londonien.
Voilà, qui vit à Londres, en tout cas. Okay. Le brésilien, voilà. Le brésilien, parce que ça me fait rêver.
Ah oui, puisque tu revenais du Brésil.
Et oui, non, mais c'était ça, à l'époque, qui me... Et moi, j'adore les... En fait, il a le côté brésilien. Alors, ce n'est pas un bel âtre brésilien comme on peut l'imaginer. Non, c'est le côté brésilien, le latino, quoi. C'est le genre que j'aime. Un peu bourru, brun, la barbe. Enfin, bon, voilà.
Oh, c'est ouf quand même. Cette nuit, c'est ouf.
Non, mais tu te rends compte ? Quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit, mais quand je vais raconter ça à Guillaume, mais c'est juste incroyable. C'est... Au moment où je... Voilà, on a eu la discussion hier. Là, on va en parler un petit... Voilà, je savais que tu allais en parler. Donc, et je me dis, mais c'est fou.
Impressionnant. Beau rendez-vous au prochain épisode.
Ok.
Merci en tout cas.
Je t'en prie.
Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment-devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas. Si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien. Il te suffit de cliquer sur « s'abonner » ou « suivre » sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment-devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.